Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Quatorze morts, des maisons incendiées et des personnes disparues. Bilan provisoire de l'attaque la nuit de vendredi à hier samedi au village de Kiaganda dans le Lubero au Nord Kivu. La société civile locale déplore ce qu'elle qualifie de laxisme des FARDC. Examen d'État édition 2024. La session ordinaire démarre demain lundi dans toute la RDC. Au Nord Kivu, les autorités éducationnelles rassurent que des dispositions et garanties sécuritaires sont prises pour une bonne passation de ces épreuves, même dans les zones occupées par des rebelles. Et puis, Monkeypox en RDC, plus de 8000 cas, dont 410 décès déjà enregistrés cette année, des chiffres du programme national de lutte contre cette maladie. Pour en parler, nous recevons Dr Shungulu Shima, médecin directeur du programme national de lutte contre le Monkeypox. Bonjour et merci de nous recevoir dans le territoire de Lubero, au Nord Kivu. Nous apprenons qu'au moins 14 civils ont été tués, des dizaines de maisons d'habitation incendiées et des personnes disparues. C'est le bilan encore provisoire de l'attaque la nuit de vendredi à hier samedi au village de Kianda dans le groupement de Manzia. L'armée est intervenue en retard. L'ennemi avait déjà commis ces atrocités, rapportent des sources de la société civile locale. Cette structure citoyenne déplore ce qu'elle qualifie de laxisme des FARDC qui, selon elle, aurait ignoré les alertes données. La population a vidé le milieu pour se réfugier dans d'autres entités jugées sécurisées, indique la même source. L'administrateur du territoire de Lubero qui revient de la zone confirme la nouvelle. Le colonel Alain Kiwewa appelle la population à l'union pour faire face à cette barbarie. Propos recueillis par Grévis Salomon.
C'est depuis vendredi le 21 que les ADF MTN ont massacré encore la population dans le territoire de Lubero et plus précisément dans le village Kianganda, là où ils ont tué pratiquement 14 personnes et brûlé plusieurs maisons. Une dizaine de maisons ont été brûlées. Je demandais à ce que la population voir comment nous pouvons résister par rapport à l'agression ou par rapport à l'incursion de ces ADF MTN. Je demandais c'est moi une chose qui n'ait pas peur d'avoir confiance aux autorités locales, d'avoir confiance également à nos forces armées qui sont sur place, qui soient unies. L'armée est là, l'armée a la mission de sécuriser la population, elle sait bien et ils doivent avoir confiance à cette armée. Tous ensemble, nous allons vaincre l'ennemi.
Entre-temps, l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri, UNADI, déplore la reprise des violences par des groupes armés dans cette province. Après environ 6 mois d'accalmie, cette structure qui regroupe toutes les communautés locales indique que la population est lassée de la guerre et des situations d'instabilité permanente. Le président de l'UNADI lance un appel aux leaders des milices de respecter leurs actes d'engagement, dont le dernier signé le 26 avril dernier, et au gouvernement et son partenaire la MONUSCO d'assumer leurs responsabilités. Responsabilité de protéger les civils victimes des atrocités des hommes armés depuis 2017. Michel Metawani l'a dit au micro de Isaac Remoyope.
Nous condamnons ce qui vient de se passer à Lodjo, où il y a eu des personnes innocemment tuées par les groupes armés et qui sont tous signataires d'actes d'engagement. Ils doivent respecter leur acte d'engagement étant donné que la paix, c'est une priorité pour notre population. Les innocentes personnes qui meurent pour des causes inutiles, ça doit s'arrêter parce que la population en a marre. C'est le moment pour nous de rappeler au gouvernement qu'il y ait un déploiement rapide des militaires et des policiers pour protéger les vies humaines, où les groupes armés se comportent à mettre sur terrain. Nous ne voudrions pas que la situation se répète. Nous appelons aussi la MONUSCO à devoir aussi protéger la population pour que la population trouve sa quiétude. Les jeunes doivent prendre conscience parce que nous sommes fatigués de ces histoires qui ne nous avancent à rien. Au lieu de se concentrer pour le développement de notre province, nous perdons le temps à trait de nous entretuer inutilement.
Pendant ce temps, en séjour à Goma, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC a visité hier les troupes onusiennes déployées dans le Nyiragongo et à Goma dans le cadre de l'opération Springbok. Pour Madame Bintou Keita, cette mission consiste à évaluer le travail que font les casques bleus sur le théâtre des opérations, mais également leur apporter sa solidarité dans le cadre de cette synergie entre la force et la composante civile de la mission. La chef de la MONUSCO est au micro de Aubin Moukoni.
C'était extrêmement important de faire cette visite puisque depuis le début de la mise en place de Operation Springbok, qui est bien connue maintenant, nous avons eu Operation Springbok numéro 1, numéro 2 et nous nous préparons pour Operation Springbok numéro 3, basé sur les leçons que nous avons tirées des précédentes opérations. Et il se trouve que au moment où ça s'était mis en place, je n'ai pas eu l'opportunité de venir à Goma et dans cette zone pour montrer mon appréciation du travail qui est fait par nos troupes et aussi de montrer ma solidarité et d'exprimer les besoins que j'ai pour que la force et nous, la composante civile de la mission, nous comprenions que nous devons travailler ensemble pour renforcer la compréhension par la population et par les autorités que nous soutenons de la qualité du travail que nous faisons. Parce que nous avons un mandat qui continue. Nous sommes certes désengagés du Sud Kivu, mais nous avons encore un mandat à mettre en œuvre au Nord Kivu et en Ituri.
Par ailleurs, les questions de coopération bilatérale et la guerre dans l'Est de la RDC étaient au centre d'un tête-à-tête hier à Kinshasa entre le président Félix-Antoine Tshisekedi et le ministre d'État belge André Flao, information rapportée par la présidence de la RDC. Il s'agit d'une réunion amicale dans le but de continuer à manifester le soutien de la Belgique à la RDC. Il est indispensable d'avoir des bonnes relations entre les responsables et les personnes, a déclaré l'ancien président de la Chambre des représentants de la Belgique au sortir de l'audience lui accordée par le président Tshisekedi. Au sujet de l'agression de la RDC par le Rwanda, André Flao a condamné l'existence des deux niveaux d'application du droit international, estimant qu'il est important d'être porteur d'un message afin que l'Europe ne soit pas distraite face à la guerre dans l'Est de la RDC. André Flao, dans ses propos recueillis par Alain Rungmushinj.
L'objet de la visite, c'est tout simplement de continuer à manifester un intérêt et un soutien entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Donc on peut considérer ici qu'il s'agit d'une réunion qui est aussi amicale d'ailleurs, qui place cela sous le thème de la continuité des dossiers entamés à un moment où le Congo vient de se doter d'un nouveau gouvernement qui a un programme qui est effectivement chargé, qui va intégrer toutes les priorités émises par le président, que l'on parle notamment du désenclavement, du numérique, que l'on parle de toute une série de projets. Et dans cet ordre d'idées, j'ai aussi rencontré la Première ministre qui effectivement est en charge avec sa nouvelle équipe de mettre tout en œuvre pour, à un rythme soutenu, répondre aux aspirations de la population. Et en ce qui me concerne, j'ai été au Parlement celui qui a porté le plus de questions et de remarques à l'égard des ministres, Premier ministre à l'époque et ministre des Affaires étrangères, pour faire en sorte que l'on n'oublie pas ce qui se passe à l'est du Congo.
Autre nouvelle, la session ordinaire de l'examen d'État édition 2024 démarre demain lundi 24 juin sur l'ensemble du territoire national. Au Nord Kivu, les autorités éducationnelles rassurent que toutes les dispositions et précautions ainsi que les garanties sécuritaires sont prises pour une bonne passation en toute quiétude de ces épreuves, même dans les zones sous occupation des rebelles dans le territoire de Rutshuru. Selon le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 1, certains centres ont été délocalisés vers là où il y a la présence des FARDC. Luc Gwabeza le dit au micro de Denise Lukeso.
Je peux vous rassurer que toutes les dispositions ont été prises. Ces enfants, rien ne les empêche de passer les épreuves dans la quiétude, d'autant plus que nous avons toutes les garanties de sécurité. Quant au centre de passation, nous avions pris toutes les précautions. Il y a certains centres qui ont été délocalisés vers le centre-ville ici. Et aussi d'autres centres sont localisés là où il y a le FARDC, donc sous le contrôle du gouvernement. À l'heure actuelle, il n'y a aucune inquiétude à ce niveau. Et ces enfants vont passer les examens sans difficulté. Les centres de Kichanga, pour des raisons sécuritaires, il y a des centres qui sont organisés ici à Mugunga, qui accueillent tous les enfants de Kichanga, de Masisi 2, Sake et consorts, sur place ici. Et donc, ces enfants vont aussi passer les examens dans les conditions voulues par l'État. Nous leur plaçons encore un dernier mot d'encouragement. Celui de travailler avec leur propre intelligence, ne pas s'appuyer sur la tricherie ou sur le phénomène labo, puisque l'avenir de ce pays leur appartient.
En outre, le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 1 remercie le chef de l'État pour la prise en charge de tous les frais de participation des finalistes du Nord Kivu, signalant que 19 057 candidats, dont 9 754 filles, sont attendus au Nord Kivu dans 64 centres organisés. Examen d'État toujours, sachez que toutes les malles contenant les items sont déjà arrivées dans leurs provinces respectives. Ainsi en a assuré vendredi l'inspecteur général du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Jacques Odiamusungai, confirmait d'ailleurs que cette session devrait aussi se passer sans problème, même dans les zones en proie à l'insécurité, comme vous venez de l'entendre. On écoute Jacques Odiamusungai, joint par Babel Mpongo Masimango.
C'est le dernier réglage au niveau des provinces. Mais ici, au niveau de Kinshasa, l'administration centrale, au centre national d'organisation, tout a été déjà fait. Au moment où nous parlons, les malles contenant les cahiers d'items sont déjà dans le point de chute, c'est-à-dire dans les provinces éducationnelles. Et au moment où nous parlons, les inspecteurs principaux provinciaux me confirment que les malles sont en train d'être déployées dans les recoins. Mais tout est bien, nous restons confiants. Le lundi, sur toute l'étendue de la République, les épreuves vont commencer.
Inspecteur, qu'en est-il des préparatifs dans les zones insécurisées et celles en guerre?
Les malles d'examen d'État sont partis. J'espère qu'à ce niveau-là, les épreuves également vont se dérouler parce que nous avons l'expérience de l'ENAFEP et TENASOSP, les dissertations. Mmh. Ça a eu lieu. Au début, il y avait des petits couacs, mais on a fini par se comprendre. Les épreuves ont eu lieu. Okay. Là où ça a pris un petit retard à cause, comme vous le dites, de l'insécurité, un jour après, les choses se sont passées convenablement. Nous l'espérons également la semaine prochaine. Nos compatriotes qui sont de ce côté-là vont veiller à ce que les choses se déroulent proprement, sans couac.
La construction de 63 km des routes périphériques autour de la ville-province de Kinshasa dans un délai de 2 ans et demi occasionnera des expropriations des terres. Le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, ITPR, l'a souligné hier lors de la cérémonie de lancement des travaux. Saluant ce grand projet, le président de l'autorité traditionnelle et coutumière de la RDC insiste auprès du gouvernement pour que le pouvoir coutumier soit nécessairement associé dans le processus d'expropriation. Billy Vandutumba revient sur cet appel du ministre dans ce reportage.
D'emblée, disons que l'expropriation est soutenue en RDC par la loi 77-001 du 22 février 1977 et la loi 73-021 du 20 juillet 1973. C'est sur base de ces dispositions qu'Alexis Guissaro, ministre des ITPR, demande aux habitants des quartiers et localités concernés de se soumettre à ces dispositions.
Il faudrait procéder aux expropriations des espaces nécessaires pour dégager toute l'emprise de la route. C'est ici pour nous l'opportunité d'insister auprès de nos compatriotes sur la nécessité de respecter l'emprise publique et de ne pas multiplier des constructions le long de la route dès qu'un projet routier se met en place en vue de se faire indemniser.
Participant aussi à la cérémonie de lancement des travaux avec une importante représentation des chefs coutumiers, Fumi Difima, président de l'autorité traditionnelle, encourage cet important projet avec cette recommandation.
Il faudrait nécessairement qu'on mette une commission en place dans laquelle on va associer l'autorité coutumière que nous sommes. Mais chaque fois que le gouvernement veut agir, il fait fi de notre existence. Nous sommes sur des terres rurales, des terres coutumières. Je fais appel au DG de la CGT, celui de l'OVD aussi. Si on peut conduire à la même vitesse, nous apporterons les solutions appropriées. Que les populations puissent faire confiance à leur chef.
Signalons que ces routes passeront par Lutendele, Djokol, Ngombi, Ngudiabaka vers le Congo central, Mitendi, Kimwenza et Njili Brasserie pour les communes Monga, Fula, Njili et Kimbanseke.
Retour au Nord Kivu. La Fédération des comités des pêcheurs individuels du lac Édouard, FECOPEL, saisit la première ministre congolaise au sujet du projet de vente aux enchères du bloc pétrolier numéro 5 dans le lac Édouard, dans le parc national de Virunga. Dans une correspondance adressée vendredi à la chef du gouvernement, FECOPEL s'inscrit en faux contre ce projet et dit s'y opposer vigoureusement. Pour elle, exploiter le pétrole dans le lac Édouard, c'est violer délibérément certaines dispositions de la conservation de la nature en RDC. C'est aussi sacrifier plus de 200 000 familles congolaises qui dépendent des eaux de ce lac et ses ressources, dit Josué Mukura, secrétaire général de la FECOPEL. Il est au micro de Denise Lukeso.
Le lac Édouard fait partie intégrante du parc national de Virunga et site du patrimoine mondial de l'UNESCO et de Ramsar. À part ça, le lac Édouard est l'unique moyen de subsistance des communautés de pêcheurs de plusieurs personnes intervenant dans la filière poisson. Alors, nous avons adressé une lettre à la première ministre pour lui dire nous ne voulons pas que le lac Édouard, qui est notre moyen de subsistance, soit sacrifié au profit des entreprises étrangères pour maintenant laisser la population dans la vulnérabilité. Donc nous voulons que le gouvernement actuel puisse abandonner toute initiative qui vise à exploiter le pétrole dans le lac Édouard. La première ministre et son gouvernement doivent maintenant intervenir et demander aux pays pollueurs de voir comment compenser le Congo, comme le Congo est un pays solution pour le changement climatique. Nous disons non à toute tentative d'exploitation du pétrole dans le lac Édouard.
Dans l'actualité aussi, l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC séjourne à Kisangani depuis hier. Nicolas Berlanga effectue une visite de 5 jours qui le conduira jusqu'au paysage de Yangambi. Nous sommes à environ 100 km de Kisangani en aval du fleuve Congo. Peu après son arrivée au chef-lieu de la province de la Tchopo, l'ambassadeur de l'Union européenne est allé présenter ses civilités au gouverneur intérimaire avant de se rendre à la faculté des sciences de l'université de Kisangani où il s'est entretenu avec les étudiants en master et en doctorat. Jacques Moukonkolé, reportage.
Au gouvernorat des provinces et à la faculté des sciences, l'ambassadeur de l'Union européenne et les membres de sa délégation y ont été conduits par le comité de gestion de l'UNUKIS avec en tête le recteur intérimaire, le professeur Jean-Jeannot Djouakali. Expliquant l'objet de sa mission dans la Djopo, Nicolas Berlanga Martinez a déclaré qu'il est venu apporter un appui aux efforts déjà déployés dans le paysage de Yangambi. À la faculté des sciences, il a visité les réalisations du CIFOR avant de s'entretenir avec les étudiants en master et un doctorat, signalant que ces programmes en vigueur depuis 2012 ont permis la formation de 270 masters et docteurs à thèse. Environ 5500 m2 de salles de classe, amphithéâtres et bureaux ont été construits avec l'appui de l'Union européenne. Les réalisations dans les domaines du développement de la filière charbon de bois durable, combinées à la promotion des foyers améliorés comme moyen de protection des forêts, ont été également visitées hier même dans la soirée à 8 km de la ville. Après Kisangani, Nicolas Berlanga Martinez et sa suite vont se rendre à Yangambi où il procédera notamment à l'inauguration de la centrale de cogénération à biomasse construite grâce au financement de l'Union européenne. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale. Nous sommes au Nigeria. La ville nigériane d'Ayetoro, dans l'état d'Ogun, menacée de disparition par la montée de la mer. Fondée en 1947, elle était considérée comme un petit paradis pour ses habitants et portait fièrement le nom de la ville heureuse. Cependant, les eaux ont dévoré bon nombre de ses bâtiments et les habitants sont impuissants face aux vagues qui avalent progressivement leur cité.
L'invité.
Nous parlons santé avec Monkeypox en RDC, plus de 8000 cas et environ 410 décès rien que cette année, des chiffres du programme national de lutte contre cette maladie. Actuellement, presque toutes les provinces sont touchées. Comme moyen de lutte, Dr Chungulushima, médecin directeur de ce programme, parle de la sensibilisation, mais il fonde aussi beaucoup d'espoir sur la vaccination. Le ministère de la Santé a homologué 2 vaccins dont l'arrivée est prévue dans les prochains jours. Dr Chungulushima apporte ici d'autres précisions dans cet entretien avec John Chibwabwa.
Bonjour docteur Chungulushima.
Bonjour messieurs les journalistes.
Quelle est la situation actuelle? Kinshasa est-elle parmi les provinces touchées?
Il y a l'extension un peu partout. Ce mois-ci, ça a encore atteint Lualaba pour la première fois. Et le Nord Kivu, les cas du Nord Kivu venaient du Sud Kivu, évidemment, comme il y a des cas au Sud Kivu. Le Congo central, nous avions connu des cas dans le passé, il y a encore des cas là-bas. Kinshasa a été touché depuis l'année passée, mais ça a diminué fortement, mais il y a encore 3 cas. Toujours des cas qui proviennent
plaine de Bandundu.
Combien de provinces au total sont touchées?
Pratiquement toutes les provinces sont touchées maintenant.
Si vous parlez de toutes les provinces qui sont touchées, combien de personnes sont atteintes de cette maladie, combien en sont morts et combien sont guéris?
Depuis le début de l'année ici jusque maintenant, là, nous sommes à déjà plus de 8000 cas. Les décès, je vous dis que ça tourne, c'est autour de 5%.
Et comment vous expliquez l'expansion actuelle de la maladie?
La vaccination qui protégeait par le passé. On avait arrêté ce vaccin depuis 1980. Donc ça fait près de 45 ans passés. Vous voyez, les jeunes générations, les moins de 50 ans maintenant n'ont pas été vaccinés. Ce qui fait que la population est prête à faire ce genre de maladie parce qu'il n'y a pas d'immunité. Et puis ça surajoute les modes de transmission. C'est les gens qui vivent ensemble. Souvent, ils font la maladie. Surtout à l'Est maintenant, ça se transmet beaucoup par mode sexuel.
Quelles sont les mesures prises pour la prévention, la prise en charge des malades et la sensibilisation de la population?
Le système de gestion est en place. Il répond aux activités, c'est-à-dire les activités concernant la surveillance, les contacts de ceux qui ont touché les cas. Ils peuvent faire la maladie en dehors 21 jours. Et puis, il y a des appuis qui commencent déjà à tomber du côté de l'USAID, de l'OMS, d'Africa CDC. Ils commencent à donner des appuis. Mais c'est encore insignifiant par rapport à l'ampleur de la situation. Mais on a commencé là où les cas sont un peu plus nombreux, comme à l'Équateur, bientôt ça sera la Tchopo, qui du côté de Kisangani. Les mesures sont déjà mises en place pour la riposte. Maintenant, les démarches sont en cours pour le nouveau vaccin que le ministre a autorisé. On attend l'arrivée de ce vaccin-là pour qu'on voit comment commencer au fur et à mesure, petit à petit, à vacciner.
Parlons des vaccinations. Elle concernera tout le monde?
La vaccination, on peut vacciner tout le monde, évidemment, mais on va commencer par les groupes les plus cibles. Tel qu'on a fait avec le vaccin de l'Ebola, on va commencer là où se trouvent beaucoup de cas. L'entourage de ces familles et là les contacts, nous les appelons les contacts. Les gens les plus susceptibles d'attraper, beaucoup plus, comme le personnel médical, les gens qui sont dans les villages où il y a beaucoup de cas. C'est dans des groupes comme ça que nous allons commencer avec la vaccination. Et on pourra élargir. Il y aura même des villages où tout le monde pourra recevoir ce vaccin.
Comment vous sensibilisez la population pour se préserver de cette maladie?
Ça ne se fait pas vraiment dans tous les pays à la fois comme ça. Mais là où les interventions commencent à aller, il y a la sensibilisation. Avec le BA de l'USAID, on a élaboré déjà des documents, des affiches, des dépliants, des équipes, les relais communautaires, les gens de Croix-Rouge, tout ce monde est là chargé de sensibilisation, tel qu'on fait par exemple avec quand on fait des campagnes de vaccination. Là où il y a les interventions, déjà les sensibilisations continuent. Et par groupe passible aussi, dans des écoles, chez les chasseurs, on sensibilise un peu partout là.
Quelle est l'origine de cette maladie et le message que vous passez à la population?
L'origine de la maladie, normalement, ça vient des animaux de la forêt en général. Et ils meurent beaucoup. Et nous, quand nous, l'homme, on entre dans la forêt ou dans la brousse, on ramasse ces animaux-là, les écureuils, toutes sortes d'animaux, n'importe quel animal. Même les animaux domestiques, les porcs. C'est-à-dire les animaux qui meurent sans raison apparente. Il ne faut pas les ramasser, il ne faut pas les consommer. Ça, c'est la première des choses. Et puis, à chaque fois qu'il y a des éruptions, plutôt que de dire, oh, ça, c'est varicelle, ça, c'est... Amenez-les dans un centre de santé le plus proche. Les infirmiers, les médecins qui sont là sont déjà formés pour pouvoir vous dire que ça, c'est un cas de maquipox ou c'est un cas de varicelle.
Merci beaucoup, docteur Chumulushima.
C'est moi qui vous remercie.
Le médecin directeur du programme de lutte contre le maquipox répondait aux questions de John Tiboaboa. Ainsi prend fin ce journal, coordonné par Jacques-Yves Molima Aouta, supervision de Alain Rongmouchinj, Deps Vita à la mise en onde. Merci d'avoir été des nôtres.